Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Les enjeux internationaux. Près de 8000 km de côte qui pourraient être autant d'opportunités économiques et pourtant, les Italiens ont concentré leurs activités économiques et administratives au sein des terres. Et c'est la thèse de notre invité, ils n'ont pas saisi les opportunités qu'offrait l'accès au large. C'est à ce paradoxe que s'intéresse Francesco Masselli dans une enquête historique et anthropologique qu'il mène le long des côtes italiennes pour lever le mythe de ce peuple que l'on dit de marin. Enquête qui a donné lieu à un livre, L'Italie a peur de la mer, paru en Italie chez NR Éditions. Quelles ont été les conséquences de cette peur et quelles répercussions sur les politiques maritimes actuelles? Bonjour Francesco Masselli.
Bonjour à vous et merci de m'avoir invité.
Vous êtes correspondant en Italie de l'Opinion. On vous doit donc ce livre dont j'ai parlé, qui n'est pas encore traduit en français. L'Italie a peur de la mer. À travers votre enquête historique, littéraire, sociologique, vous tentez de remonter aux sources de cette relation difficile que les Italiens entretiennent avec la mer. Pourquoi ont-ils plus peur de la mer que les Espagnols ou que les Grecs?
Parce que en fait, il y a des raisons géographiques d'abord. On est habitué à un accès facile aux mers aujourd'hui, dans la modernité, mais en fait, ça n'a pas toujours été le cas. Et historiquement, jusqu'aux années 40, l'Italie, les côtes italiennes étaient une étendue de marais. Et un habitat parfait par les moustiques et donc par la malaria. Et les Italiens mouraient de malaria à milliers de personnes. Et ça a empêché en fait une quotidiennité avec l'élément, la mer. Ensuite, il y a aussi un élément géopolitique, c'est-à-dire que l'Italie n'a jamais contrôlé la Corse et Malte. Et donc, vous contrôlez pas la mer qui est juste devant vous. Ah, la mer, ça devient un élément étranger, un élément où ça peut arriver le problème, ça peut arriver l'étranger. Et donc ça, c'est enraciné dans la culture italienne. Et ensuite, ça se voit. J'ai beaucoup travaillé, voyagé. Ça se voit dans les pays côtiers. Parfois, il y a des gens qui savent pas nager juste en face de la mer. Qui n'ont aucun rapport avec elle. Et je pense que ça montre un peu la peur et l'ignorance, la méconnaissance de l'élément. Et ça se voit aussi à niveau économique et politique.
Mais alors, est-ce que les Italiens étaient de bons ou au contraire de mauvais navigateurs, Francesco Masselli?
Mais non, ils étaient des bons navigateurs. Il y a des exemples extraordinaires. Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci. On a participé à l'âge des grandes découvertes, mais sont des exceptions. Et en plus, il faut noter que ces Italiens, ces marins extraordinaires, ils ont dû travailler à l'étranger pour des puissances étrangères, pas pour des puissances italiennes. Et donc, ça montre aussi l'empensée géopolitique et l'empensée politique de l'élément. Ils ont dû chercher leur fortune ailleurs, pas en Italie.
Bon, en tout cas, l'Italie est passée à côté du développement de son littoral.
Oui, totalement. Et cette limite, on essaye de la rattraper, mais c'est difficile parce qu'il nous manque un peu la culture maritime, notamment dans les deux centres plus importants d'Italie, le centre économique qui est Milan, qui est complètement tourné vers la France et l'Allemagne, et le centre politique qui est Rome, qui elle aussi veut participer aux tables rondes européennes et se pense comme une puissance justement continentale. Et donc, on oublie parfois qu'on a 8000 km de côte et que, en réalité, on est un porte-avions ou porte-container au centre de la Méditerranée. Ça, c'est un impensé.
Et alors, est-ce que ça pourrait expliquer la fracture entre les deux Italies?
Oui, je pense que ça participe à expliquer ça, parce que en fait, le sud de l'Italie, même s'il est ouvert sous la mer, n'a jamais eu un grand rapport avec l'élément. Il faut penser que les deux villes plus maritimes d'Italie sont au nord, sont Gênes et Trieste. Il n'y a pas un grand port historique italien dans le sud. Ça a été construit en 93 à Gioia Tauro, c'est en Calabre, mais c'est c'est tout récent et il n'y a pas de dimension historique et de tradition au Soude. Ça manque complètement. Et les îles aussi, la Sardaigne et la Sicile, ont un rapport très très difficile avec la mer, notamment la Sardaigne. Donc ça, cette dimension au Soude, ça n'existe pas.
Et alors les ports italiens, on peut les considérer donc effectivement comme plutôt sous-développés par rapport aux ports européens, Francesco Maselli.
Oui, c'est, par exemple, Gênes, c'est le principal port italien. C'est un port important, hein. C'est un port qui pèse et qui est très important pour les commerces italiens. Mais par rapport aux rivaux de l'Europe du Nord, par exemple, par Rotterdam ou Hambourg, elle est tout petite. Et il y a des raisons, notamment géographiques, encore une fois, parce que Gênes, c'est une ville qui a pas d'espace. Et le port, c'est dans le centre-ville. Donc, c'est très difficile de le faire développer. Et en plus, il n'y a pas beaucoup d'espace pour les navires pour arriver. Et donc, ils sont en train de l'élargir. Il y a des investissements. Mais c'est hyper compliqué de rattraper le retard avec le nord d'Europe. Et donc, on a cette dimension à la fois politique, géographique et géopolitique qui empêche, en fait, le développement et la concurrence de ces ports.
Bon, aujourd'hui, l'Italie connaît des problèmes économiques avec bien la question donc du conflit en mer Rouge et la réduction du nombre de passages par le canal de Suez.
Oui, l'Italie dépend du canal de Suez parce que géographiquement, si un navire part de l'Asie du Far East, s'il rentre par Suez, il a l'intérêt à passer par l'Italie parce que c'est géographiquement proche. Mais si Suez est bloqué, Suez est en crise et la mer Rouge, ça devient un problème y passer parce que pour les attaques des outils, mais aussi parce qu'on se rappelle pendant la pandémie, il y avait cette navire l'Evergrande qui avait complètement bloqué. Okay. Mm-hmm. Suez, donc, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Si le navire commence à circumnaviguer l'Afrique et donc passer par une autre route, ils n'ont plus d'intérêt à passer par la Méditerranée et donc par l'Italie. Et ça, c'est effectivement un problème pour le commerce et pour la compétitivité des ports italiens, qui déjà aujourd'hui ont difficulté à être concurrencer les ports de l'Europe du Nord. Mais si les routes changent, ça va être la catastrophe pour les villes portuaires italiennes.
Mais alors, vous dites que les Italiens sont un peuple de touristes balnéaires plutôt que de navigateurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
Oui, on est habitué, quand on pense à l'Italie, quand on pense aux vacances en Italie, on pense immédiatement à la plage, à la mer et aux stations balnéaires qui sont effectivement célèbres. Mais c'est très spécifique à l'Italie. On a un littoral qui est complètement en concession aux mêmes entreprises, spécifiquement familiales, parce que c'est une économie qui n'est pas une grande économie, donc on n'a pas de grosses entreprises, et qui ont les mêmes concessions depuis des dizaines d'années. Et en plus, ils payent très très peu de redevances. Et donc, comme c'est une ressource qui devait être mise en concurrence selon les règles européennes, notamment la directive Bolkestein, tous les gouvernements italiens refusent de faire ça. Parce que il défend une rente de position très très liée à la terre, même si ils sont sous la mer. En fait, on parle de la gestion de la terre. Et la chose intéressante, c'est que les hommes et les femmes politiques italiennes défendent ces rentes de position et disent que en fait, on veut vendre aux multinationales cet espace fondamental pour l'Italie, qui est la plage, qui est allée dans nos établissements balnéaires. Et donc, dernièrement, le gouvernement de Giorgia Meloni, par exemple, essaye de ne pas appliquer cette directive européenne en disant « Mais écoutez, on a donné en concession environ 30% du littoral italien et le reste est libre. » Et donc, il faut, au lieu d'éliminer les concessions actuelles ou de les mettre en concurrence, il faut donner d'autres concessions parce qu'on a plein de plages libres. Et en fait, c'est pas vrai parce qu'ils considèrent dans cette concession tous les ports aussi, les plages qui sont pas accessibles. Et donc, c'est un peu un imposture qui montre bien, je pense, le rapport entre l'Italie et la mer. On parle de terre, en réalité, aussi, quand on veut parler de la mer.
Et enfin, bien sûr, aujourd'hui, la mer, cela symbolise aussi les flux migratoires aujourd'hui pour l'Italie, Francesco Maselli.
Oui, mais ça a toujours été ainsi. Et ça aussi, je pense, ça montre bien l'en-pensée politique de cette question. C'est-à-dire qu'on imagine qu'on peut résoudre un phénomène qui est un phénomène structurel qui est l'immigration, en me disant si on est plus dur, si on ferme les ports ou si on s'occupe de ça en éliminant les routes, on a résolu le problème. Il y aura plus de migrants. On va tout fermer et on va très bien parce qu'on va pas d'eux. Mais en fait, on peut pas faire comme ça parce que la position géographique de l'Italie empêche ce type de raisonnement. On n'est pas la Suisse, même si certains aimeraient bien être la Suisse. On est là et donc il faudrait utiliser notre position géographique aussi pour traiter ce problème comme un phénomène structurel. Alors que nous, on est toujours en émergence, toujours en urgence, et on résout pas le problème, et on est toujours débordé par les vagues de débarquement. Alors que c'est naturel, ça fait partie de notre position géographique, et il faudrait le penser ainsi.
Merci Francesco Maselli. Je rappelle que vous avez publié « L'Italie a peur de la mer ». Alors pour l'instant, ça n'est lisible que par les italophones. Merci beaucoup à notre correspondant Bruno Duvic qui a rendu possible ce duplex. Dans quelques secondes, eh bien, nous serons par exemple avec Alexandra Delbo pour « Avec science ».